Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui assister à ce premier rendez-vous du Centre de droit public. Puisqu'aujourd'hui, avec la venue de Béa Cantillon, nous inaugurons une nouvelle formule de cycle de conférences. Nous allons désormais organiser chaque semestre un cycle de conférences-débats. Et ces conférences-débats vont à chaque fois porter sur une thématique bien précise. Alors pour le choix du thème de ce premier cycle que nous inaugurons aujourd'hui, une petite équipe qui a préparé ceci, on s'est en bonne partie laissé guider par l'actualité, puisque vous l'avez vu sur les documents, les invitations, nous avons décidé de consacrer ce premier cycle au thème de l'impact de la 6e réforme de l'État sur la solidarité. L'an passé, vous savez peut-être, le centre, particulier sous la houlette de Marc Huitendal et Joël Sautoy, a déjà organisé un premier colloque sur l'ensemble de la 6e réforme de l'État. Là, l'exercice a consisté à analyser, à essayer de répertorier tous les principaux changements qui vont être apportés à notre système fédéral par l'accord de réforme institutionnelle d'octobre 2011. Donc ça, c'était une première étape. Tandis que pour ce cycle de conférences-ci, nous avons choisi de resserrer les questions sur lesquelles nous allons nous pencher autour d'une thématique un peu plus ciblée, avec la question donc de l'impact de ces réformes sur la question de la solidarité. La solidarité interpersonnelle, la solidarité sociale avec la Sécu évidemment, mais aussi, vous avez vu le programme, la solidarité interrégionale ou fiscale avec le thème du financement des entités fédérées en Belgique. Et par ailleurs, nous avons demandé aux différents orateurs que nous allons accueillir d'adopter un regard de type plus personnel, plus évaluatif à propos des réformes qui sont en cours. Ce qu'on a suggéré de faire aux conférenciers, c'est de dresser un bilan critique de ce qui est en train de se passer. Voilà, et alors pour entamer ce nouveau cycle, nous sommes très, très heureux, très honorés d'accueillir aujourd'hui le professeur ou la professeure, je ne sais jamais ce qu'il faut dire, Béa Cantillon. Alors en quelques mots, parce que notre oratrice est bien connue, Béa Cantillon est, pour reprendre une expression de Pierre van der Vorst, qui a longtemps enseigné le droit de la sécu ici, expression que je utilise dans ce livre, Béa Cantillon est la grande dame de la sécu. En bref, Madame Cantillon dirige à Anvers le Centrum voor Sociaal Beleid, le centre de politique sociale. Les initiés savent que le Centrum voor Sociaal Beleid, en Belgique, mais aussi à l'étranger, c'est le phare, le centre de référence sur toutes les questions qui tournent autour de l'évolution des inégalités, de la pauvreté, de la redistribution des richesses et aussi, de manière générale, tout ce qui touche aux transformations de l'État-providence et de la sécurité sociale. Mais l'expérience professionnelle de Béa Cantillon ne se cantonne pas au monde académique. Notez notamment dans votre parcours un passage en politique, puisque vous avez été sénatrice CVP, CDNV aujourd'hui, entre 1995 et 1999. Et par ailleurs, un exemple parmi d'autres que je vais épingler, vous êtes aujourd'hui la présidente du comité de gestion de l'ONFTS, l'Office national d'allocation familiale pour travailleurs salariés. L'ONFTS existe encore pour l'instant, mais on ne sait pas très bien pour combien de temps, puisque le splitting des allocations familiales a été décidé dans le cadre de la 6e réforme de l'État. Et tout ceci m'amène au sujet de votre intervention d'aujourd'hui, le fédéralisme social après la 6e réforme de l'État. On a annoncé qu'au Vadis, où allons-nous? Alors c'est évidemment secret pour personne que l'avenir de la sécurité sociale a occupé une place importante dans les très longues négociations qui ont précédé la conclusion de l'accord de réforme institutionnelle d'octobre 2011. Classiquement, on considère en Belgique que la Sécu est du ressort exclusif de l'autorité fédérale. Ce principe a déjà connu une première entorse, une première révolution selon les points de vue avec toute la saga de la Zorgverzekering, l'assurance dépendance qui a été mise en place par la communauté flamande. Et aujourd'hui, le mouvement centrifuge s'accélère puisque il est maintenant question non plus seulement de permettre aux entités fédérées d'ajouter, de créer de nouvelles prestations à côté du système fédéral déjà en place, il est question de scinder des prestations qui existent déjà, qui existent depuis longtemps. Le pas vient d'être franchi avec les allocations familiales qui vont être communautarisées, j'imagine qu'on va en parler. Mais il y a évidemment d'autres branches qui pourraient suivre dans un avenir proche, je pense en particulier aux soins de santé et à l'assurance chômage. Sur toutes ces questions, vous avez, Béa Cantillon, un point de vue, une opinion, c'est pour ça qu'on vous a invité. Vous avez par exemple l'occasion de déclarer dans une émission à la VRT que pour vous, scinder la sécurité sociale, ça représenterait un recul de la civilisation, une formule qui avait qui avait marqué. Pour autant, et pourtant que je sache, je crois qu'on aurait tort de voir en vous simplement une partisane du statu quo. Pense notamment à un article qui vient de paraître, qui est paru il y a quelques jours dans la revue, je vais y arriver, Publius, la revue de référence sur le fédéralisme. Dans cet article, vous défendez l'idée que le fédéralisme bipolaire qui caractérise l'État belge, donc cette confrontation de deux groupes culturello-linguistiques, le fédéralisme bipolaire belge s'accommoderait mieux d'un système de compétences partagées ou concurrentes en matière de sécurité sociale. Ça impliquerait évidemment de rompre avec un principe fondamental de notre système fédéral, le principe de l'exclusivité des compétences, puisque, en principe, chez nous, les compétences sont exclusives. Si un niveau de pouvoir est compétent, ce n'est pas un autre en même temps. Vous dites que, dans le contexte belge et en matière de sécurité sociale, il serait opportun de permettre à l'État fédéral et aux entités fédérées de légiférer en même temps, de légiférer toutes les deux en matière de sécu, mais moyennant évidemment un certain nombre de modalités. Voilà, mais donc vous allez évidemment expliquer tout ça mieux que moi, et donc vous avez tout de suite la parole pour un exposé de 45-50 minutes, cet ordre-là, voilà. Et après, nous aurons évidemment un moment pour débattre avec la salle et poser toutes les questions que vous voudrez poser. Voilà.
Bon, merci beaucoup pour l'introduction, pour l'invitation. Je crois que c'est la première fois que je parle du fédéralisme social après la 6e réforme de l'État en français. Voilà. Et je vais faire de mon mieux. Je dois dire que j'avais demandé à notre service de traduction de me faire une traduction de mon PowerPoint. Mais c'était trop tard et donc hier soir j'ai fait la traduction moi-même et peut-être il y aura quelques fautes dans le PowerPoint et bon, si vous trouvez une faute vous pouvez toujours me le dire. Bien. Alors la grande question au moment pour parler sur la réforme de l'État, mais la question qui restera très importante en Belgique pour les décennies à venir, c'est la question de savoir comment on peut réconcilier la dévolution des pouvoirs, la décentralisation en matière de sécurité sociale et de politique sociale plus en général, avec le maintien de la solidarité dans une fédération justement bipolaire, dans une fédération hétérogène d'un point de vue culturel, linguistique et socio-économique. Et donc ça c'est la grande question. Jusqu'à présent, on a essayé de tenir la sécurité sociale en tant que telle, en tant que compétence exclusive au niveau fédéral. Mais avec la 6e réforme d'État, on était arrivé à un point qu'on ne pouvait plus se passer de la sécurité sociale, parce que pratiquement tous les pouvoirs en matière de politique sociale et plus large, pratiquement tous les pouvoirs sont déjà scindés. Et donc on arrivait forcément à la sécurité sociale. Et donc, il y avait pour les partis politiques cette question énormément difficile de trouver une solution pour scinder des parties de la sécurité sociale, ce qui était une demande politique du côté flamand qui était très... qui peut être très très lourd. Bon. Je commence ici avec une explication très très courte sur ce qui est la sécurité sociale, quels sont les modus operandi de la sécurité sociale. C'est une assurance, c'est-à-dire une assurance qui organise un lien entre les risques sociaux, chômage, invalidité, etc., un risque social. J'arrive à un mot que je ne trouve pas, de prix, mais les contributions. Hein, les contributions et les, schadeloosstelling. Schadeloosstelling.
L'indemnisation.
L'indemnisation, voilà. La grande différence entre la sécurité sociale et les assurances privées, c'est qu'il n'y a pas de lien, dans la sécurité sociale, il n'y a pas de lien entre le risque et la contribution. Donc, le jeune homme, 25 ans, paye les mêmes contributions pour l'assurance maladie que un patient malade de 65 ans. Donc, il n'y a pas de lien entre le risque et la contribution, et ce qui engendre une solidarité horizontale. Une solidarité horizontale qui est beaucoup plus forte que dans les assurances privées, une solidarité entre les travailleurs et les chômeurs, les familles sans enfants avec les familles avec enfants, les jeunes et les vieux, etc., etc. En plus, il y a une solidarité verticale, qui s'organise par différents instruments, par exemple par les minima sociaux, les pensions minimum par exemple, et des contributions qui ne sont pas plafonnées, et donc cela veut dire que ceux qui gagnent plus, ils payent plus à la sécurité sociale. Et ils recevront moins de la sécurité sociale que ceux qui gagnent moins, qui payent moins, mais qui ont droit à une indemnisation minimale. Et donc, il y a aussi la modélisation familiale, il y a plusieurs instruments pour organiser cette solidarité verticale entre les revenus plus élevés et les revenus bas. Verticale, horizontale. Et puis, il y a la solidarité intergénérationnelle qui s'organise par le fait que dans la sécurité sociale, il n'y a pas de capitalisation, mais les contributions, ils servent pour payer les pensions d'aujourd'hui, pour payer les indemnités de maladie d'aujourd'hui, etc. Donc, trois types de solidarité qui sont organisées dans la sécurité sociale, horizontale, verticale entre les revenus élevés et les revenus bas, et intergénérationnelle. Bon. Ici, je vais vous montrer quelques cartes pour montrer comment ces mécanismes de solidarité interpersonnelle se transforment en Belgique, mais pas seulement en Belgique, dans tous les pays, se transforment dans des transferts interrégionaux. Et si on commence ici par un index de revenus, ceci c'est sur une base des communes, on voit que c'est Bruxelles. On voit que la richesse et donc la base de contribution est fortement concentrée au milieu du pays, à Bruxelles. Pas à Bruxelles, parce qu'ici il y a un Zwartgat, on dit en flamand, le trou noir, le grand trou noir de Bruxelles. Mais c'est ici. Et les autres grandes villes, Anvers, Gand, ça c'est Knok. Et donc on voit la base de richesse, on la retrouve autour des grandes villes. Ici on voit tout de suite le problème, et je vais utiliser ce dia un peu plus loin dans mon exposé. On voit tout de suite le problème belge. C'est au milieu du pays que se concentre la richesse, et donc la base de la sécurité sociale et la base de la solidarité interpersonnelle. Alors que les risques, et ici on a les risques, ici, ça sont les personnes âgées, on voit que les risques se sont dispersés de façon très différente. Je commence ici avec les personnes âgées, puis on verra les enfants, et puis quelques autres risques comme le chômage, etc. Les personnes âgées, on voit, il y a une concentration au nord du pays et le vieillissement est beaucoup plus fort en Flandre qu'en Wallonie. Et cela a pour comme résultat qu'il y a en Flandre une concentration des pensions de retraite qui est plus forte qu'en Wallonie. Ici, on a les enfants. Et là, on voit l'inverse. Le taux de natalité est plus élevé en Wallonie qu'en Flandre et donc une concentration des allocations, les allocations familiales en Wallonie qui est beaucoup plus forte qu'en Flandre. Ici, quelques autres risques sociaux. Ici, on a l'activation par l'ONEM, une concentration des dépenses d'activation en Wallonie, ce qui est tout à fait normal puisqu'il y a plus de chômeurs en Wallonie qu'en Flandre. Si on prend ici la grappa, concentration en Flandre, il y a plus de pensionnés en Flandre qu'en Wallonie et en plus là il y a une concentration de petits indépendants dans cette zone de la Flandre. Ici, on a, ça c'est intéressant, les maladies professionnelles, une concentration dans les régions industrielles du passé, et ici on a les pauses carrières. Pause carrière, concentration en Flandre, ce qui est tout à fait normal puisqu'il y a plus de travailleurs en Flandre qu'en Wallonie. Et en plus, une richesse, les ménages sont plus riches et donc ils peuvent se permettre plus facilement de prendre une pause carrière. Et donc, ça c'est une petite introduction pour voir le schéma, une très forte concentration de la base des contributions dans les grandes villes et Bruxelles en particulier, et des risques sociaux qui sont liés à le passé. Ici, là, comme exemple, parce que les accidents de travail, c'est la même répartition. Donc, le passé. Les pensions, c'est lié à la démographie. La démographie et les allocations familiales à la natalité. Et naturellement, la répartition du chômage et le marché du travail en ce qui concerne les dépenses d'activation de chômage et de pause carrière, etc. Bon, ça c'est une petite introduction. Le grand principe, quand on lit la littérature économique sur le fiscal federalism, comme ça s'appelle, hein, là, tous les modèles économiques nous apprennent qu'il vaut mieux d'organiser la redistribution par la sécurité sociale au niveau le plus élevé possible. Donc, la redistribution verticale des hauts revenus aux bas revenus et la répartition horizontale s'organise. Il vaut mieux de l'organiser à un niveau plus élevé pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il faut éviter une concurrence sociale qui n'est pas désirable. Deuxièmement, parce que si une sécurité sociale, mais aussi ça vaut aussi pour les assurances privées, hein. Le risk pooling, plus large le risk pooling, plus résistantes sont les assurances privées et les assurances sociales aux effets de chocs économiques, démographiques, etc. Donc ça c'est le point de départ, et il n'y a pas de discussion. C'est la raison pour laquelle Roosevelt, après la grande crise des années 30, avec le New Deal, avait décidé d'organiser la sécurité sociale qui n'existait pas à ce temps-là, mais d'organiser la sécurité sociale américaine au niveau américain, mais au niveau fédéral. Et donc, en Amérique, ils ont un système de pension. Ils ont un système de chômage, avec des grandes différences entre les États, mais il y a un cadre fédéral. Et donc, cela veut dire qu'aux États-Unis, il y a une solidarité entre les États plus riches avec les États plus pauvres, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et donc, dans un certain sens, la solidarité, il est vrai que la sécurité sociale aux États-Unis est moins forte, moins généreuse que dans beaucoup de pays européens. Mais eux, ils organisent une solidarité entre tous les Américains, alors que nous, on organise la solidarité dans des petits État-providence, la Belgique, le Luxembourg, la Suède, le Danemark, ce sont tous des très petits pays. C'est la théorie, ça reste, je crois que ça doit rester le point de référence. Ça doit rester le point de référence, même si on commence à penser en termes européens. Là, il est sûr qu'il faudra trouver un mécanisme ou des mécanismes pour organiser la solidarité entre l'Allemagne et la Grèce, par exemple. Et à certains jours, il faudra trouver quelque chose. Je ne crois pas que ce sera une sécurité sociale. Mais là, il faudra trouver d'autres mécanismes pour cette raison-ci. Bon, naturellement, les transferts interrégionaux qui se forment par la solidarité interpersonnelle qui est engendrée par la sécurité sociale, ces transferts interrégionaux ne peuvent pas être causés par la politique dans une des entités ou par la non-politique. L'absence de politique dans une des entités. Il y a un très bon exemple, c'est la réforme Bama. La réforme Bama qui, en Flandre, on avait décidé d'organiser les masters dans les sciences humaines d'une année. Alors qu'en Wallonie, pour des arguments, pour des motifs très défensable aussi, on a décidé d'avoir des masters de 2 années dans les sciences humaines. Vraiment, là, on a deux différentes politiques dans la Flandre et la Wallonie qui, naturellement, a des conséquences pour la sécurité sociale. Pour les allocations familiales, par exemple. Pas seulement pour les allocations familiales, on peut aller plus loin. Ou par exemple les politiques plus largement les politiques en matière d'éducation, ça a une influence importante sur le chômage et donc sur pour la sécurité sociale, pour le coût de la sécurité sociale. Et donc ici il y a un point difficile et crucial dans un état fédéral dans lequel les politiques sociales sont la compétence des communautés. Cela peut poser problème pour la sécurité sociale qui reste fédérale. Premier problème. les transferts interrégionaux ne peuvent pas non plus rendre toute politique au niveau des entités impossible. Ici, ça c'est l'exemple de l'assurance dépendance. À un certain moment, en Flandre, il y a une majorité politique qui veut entamer une assurance dépendance. Il y a une majorité politique pour instaurer une contribution additionnelle, c'était de 25 euros, pas beaucoup, mais bon, il y avait une majorité politique pour décider une contribution, de payer une contribution pour une assurance dépendance. De l'autre côté du pays, au sud du pays, on a commencé à ruspéter en disant, bon, la sécurité sociale, c'est la compétence fédérale et donc vous, Flamands, vous ne pouvez pas commencer à entamer avec une sorte de sécurité sociale. Là, naturellement, ça c'était très néfaste. Ça a été vraiment très, très néfaste. Parce que du côté flamand, on se disait, mais si nous, on veut organiser, en surplus de la sécurité sociale fédérale, si nous, on veut organiser une assurance dépendance, et alors? Moi, je n'ai jamais été en faveur de l'assurance dépendance en Flandre, mais je comprenais l'argument du côté flamand qui disait, bon, si nous, on veut faire plus que la sécurité sociale fédérale, pourquoi on ne pourrait pas le faire? Et troisièmement, les transferts interrégionaux par une sécurité sociale fédérale ne peut naturellement pas conduire à des blocages. Et là, il y a l'exemple des allocations familiales est très parlante. Je reviendrai à la fin de mon exposé. Les allocations familiales, maintenant déjà pour des décennies, tout le monde est d'accord de dire que le système actuel avec un système pour indépendants, un système pour les travailleurs salariés et un troisième système pour les fonctionnaires, ce n'est pas efficace. Ça coûte énormément de frais de fonctionnement. Moi, je le vois travailler de plus près, je peux vous dire, c'est vraiment Kafka, hein, c'est tout à fait Kafka. Tout le monde était d'accord de dire, bon, on doit universaliser le système. Comme on l'a fait dans tous les pays, sauf la Belgique et la Grèce. Et pourquoi on ne l'a pas fait en Belgique? Bien, parce que du côté wallon, à un certain moment, on s'est dit, bon, si on va universaliser le système, ça va rendre la scission du système plus facile. Parce que si on universalise le système, on passe à un système qui serait financé par les taxes, par la fiscalité, et donc c'est plus facile de scinder un système qui est financé par la fiscalité que de scinder un système qui est financé par les contributions salariales. Et donc ça c'est l'unique raison pour laquelle on n'a pas fait cette réforme dans le passé, et pourquoi maintenant on doit scinder les allocations familiales partant d'un système très très complexe, ce qui rend l'opération encore beaucoup plus difficile. Donc ça sont les principes, hein. Le premier principe, il faut organiser la solidarité horizontale et verticale au plus haut niveau possible, mais la solidarité ne peut pas être causée par les politiques des différentes entités. Elle ne peut pas rendre les initiatives au niveau des entités tout à fait impossibles et ne peut pas conduire à des blocages. Et donc, bon, j'ai trouvé trois exemples, ce qui veut dire qu'il y a un problème. qu'il y a un problème, qu'on ne peut pas dire bon, on a cette sécurité fédérale, on est très fiers de cette sécurité sociale, et point à la lettre, on continue comme s'il n'y aurait pas de problème. Donc il y a un problème qu'il faut faire face. Pour toutes ces raisons, qui c'est pas seulement en Belgique qu'on trouve ce type d'exemple, pour toutes ces raisons, on voit que dans tous les États fédérés, il y a une sécurité sociale au niveau fédéral, partout. Aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Allemagne, partout, il y a une sécurité sociale qui est organisée au niveau fédéral, mais avec une décentralisation qui peut être plus forte ou moins forte, avec une responsabilité, des mécanismes de responsabilisation des entités fédérées et une coordination, des mécanismes de coordination entre les entités fédérées. Et cela, on le fait par des compétences partagées et ou des compétences parallèles et des approches, comme on appelle ça, c'est le système canadien, de double aspect. J'en parlerai plus tard. Bon. Compétences partagées. Toi, tu as dit dans introduction, les compétences partagées, cela naturellement, ça va tout à fait à l'encontre de la logique belge. La logique belge, la dynamique belge qui se caractérise par une logique de scission, et donc chaque réforme d'État, c'était une scission des compétences, une logique de scission sans hiérarchie, il n'y a pas d'hiérarchie fédérale. Et donc des pouvoirs exclusifs. Et donc là, nous en Belgique, on pense en termes de compétences exclusives, ce que moi je peux faire, toi tu ne peux pas le faire, et vice-versa. Ça, c'est la logique belge, qui se comprend naturellement par la bipolarité. La bipolarité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. On ne peut pas s'imaginer en Belgique, où il est difficile de s'imaginer en Belgique une hiérarchie entre les entités bipolaires. Avec en plus les communautés qui sont compétentes en matière personnalisable et les régions qui sont compétentes en matière socio-économique et la sécurité sociale qui se trouve à l'intersection des deux. Matière personnalisable, l'assistante sociale par exemple, c'est clair, et naturellement matière socio-économique. Et donc là, cela rend la construction belge très très difficile pour gérer ce problème d'organiser la solidarité avec une responsabilisation des entités fédérées et avec une hiérarchie qu'il faudrait pouvoir organiser. L'exclusivité, on a l'exclusivité, mais nécessairement l'exclusivité, elle prend une forme hybride en Belgique. Ici, à nouveau, l'exemple de l'assurance dépendance flamande. Exclusivité, bon, une compétence exclusive, mais il y a les règles européenne de coordination, ce qui veut dire que la Flandre, mais aussi la Belgique, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein, on doit suivre les règles de coordination européenne. Et en plus, en ce qui concerne l'assurance dépendance flamande, cela a été considéré comme compatible avec la compétence fédérale sur les indemnités pour assistance aux personnes âgées, donc un système très vieux, fédéral. Et là, juridiquement, on a argumenté que l'assurance dépendance flamande était compatible avec ce système d'assistance aux personnes âgées. Et donc, c'est une donc l'exclusivité déjà avant la réforme, la sixième réforme de l'État, hein, l'exclusivité, c'était déjà quelque chose de relatif. Hein. L'exclusivité, c'est relatif parce qu'on vit en Europe, mais aussi parce qu'on doit accommoder aux tendances dans les différentes entités fédérées. Bon, la sixième réforme de l'État, et si j'arrive dans un deuxième volet de mon exposé, les principes qui formaient la base de la sixième réforme de l'État. Quatre principes, et tous ces principes ils sont ambigus, très ambigus, et c'est pour ça que... il y avait d'autres raisons, mais l'ambiguïté des principes de départ, ils expliquent pourquoi ça a duré, je ne sais pas, 500, combien de jours ? Très long, hein ? Très très long. Hein ? Bon, quels étaient les principes de départ ? Premièrement, une scission de partie de la sécurité sociale en deux. Ça, c'était le premier principe de départ du côté flamand. Du côté des partis, de presque tous les partis flamands. Oui, de presque tous les partis flamands. Deuxième principe, échanger les transferts interpersonnels pour les transferts interrégionaux. Donc, interpersonnels par la sécurité sociale, on échange par des dotations. Troisième principe de départ, compétences homogènes. Il faut essayer de former des compétences, des paquets de compétences homogènes. Et quatrième principe de départ, il faut responsabiliser des entités fédérées. Donc, quatre principes de départ. Et tous ces principes sont ambigus. Et je commence par le premier principe, la scission de la sécurité sociale en deux. Là, d'abord, il faut dire que la scission de la sécurité sociale en soi est très difficile. Très difficile pour différentes raisons. Premièrement, parce que ces systèmes de sécurité sociale qui existent pour 100 ou 150 ans sont très très complexes. Et donc, il faut détricoter des systèmes qui sont énormément complexes. Et maintenant, aujourd'hui, on le voit avec les allocations familiales. On est déjà assez avancé, mais je peux vous dire, c'est extrêmement complexe. C'est très complexe, en plus parce qu'on a un système bismarckien, et donc un système pour les indépendants, un système pour les fonctionnaires, un système pour les travailleurs salariés. Et donc, la complexité qui se divise en trois. Et par exemple, en ce qui concerne les allocations familiales, ce qu'on doit faire, ce n'est pas scinder en deux. Ça, je reviendrai là-dessus. Ce n'est pas scinder un système en deux. Non, c'est scinder quatre systèmes en quatre. En quatre. Hein. Quatre, c'est... On a quatre machines et il faut détricoter ça en quatre niveaux de pouvoir. Bon, ça c'est très très complexe. Et puisque ici, en matière de sécurité sociale, on touche aux revenus de ménage, il faut faire très attention. On peut pas se permettre que les ménages ils ne reçoivent plus, par exemple, leurs allocations familiales pour une certaine période. Hein. Donc le système, la machine doit continuer à travailler. Hein. Deuxièmement, il y a les partenaires sociaux qui, eux, ne sont pas partie prenante. Ça, c'est important parce que les partenaires sociaux, ce sont eux qui connaissent le système de sécurité sociale. Donc, la connaissance du système se trouve là. Et donc, ils ne sont pas partie prenante. Et donc, ça rend les choses pas plus faciles. Troisièmement, il y a les règles européennes. Et quatrièmement, il y a le problème de Bruxelles. Et là, j'appelle ça le problème prohibitif. Si on commence à penser pour le moment, je crois, avec ce qu'on doit scinder maintenant, ça va marcher. Ça va marcher plus ou moins. Mais si on commence à penser dans le futur, je crois que le problème de Bruxelles est tout à fait prohibitif. Donc, on ne peut pas continuer dans cette logique. Ici, on doit finir, on doit trouver une autre logique parce qu'autrement, on va bloquer. Bon, le problème prohibitif de Bruxelles, pourquoi c'est un problème prohibitif? Et du côté flamand, je dois dire que la plupart des partis politiques qui l'ont compris. La plupart des partis politiques ont compris que Bruxelles, c'est un problème prohibitif. Il y a encore un parti qui n'a pas... Enfin, encore deux parties qui n'ont pas compris. Le plus petit des deux, il ne comprendra jamais. Et l'autre, je crois qu'il maintenant, il commence parce qu'ils auront leur congrès, je ne sais pas, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Très important pour suivre ça. Et là, je crois qu'il commence à comprendre qu'il y a un problème. Bon, pourquoi problème prohibitif à Bruxelles? Bien, premièrement, parce que l'assurance sociale ne supporte pas le libre choix, ni des assurés, ni de l'assureur. Et donc, par conséquence, une sécurité sociale, on peut pas organiser à Bruxelles une sécurité sociale wallonne et une sécurité sociale flamande. Ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il y a, on peut pas avoir ce libre choix. Et donc, par conséquence, une sécurité sociale bruxelloise est inévitable. Et c'est ce qu'on fera maintenant avec la sixième réforme de l'État. Il y aura des allocations familiales pour Bruxelles. Et donc, ce n'est pas une scission en deux, mais c'est une scission en trois, quatre. Sauf s'il y aurait un système de subnationalité. Mais là, je n'ai pas encore entendu les partis politiques qui étaient en faveur de ce système. Ce système qui a... Bon, ça a existé au sud de l'Afrique et en Israël. Et donc, c'est vraiment... Bon, mais du côté flamand, il n'y a personne... Bon, pour le moment, il n'y a personne qui à argumenter pour ce système. Ce qui veut dire que cela mène à un fédéralisme à 3 ou 4. Cela mène à un problème très sérieux de gestion. Et cela, on l'aura certainement avec la sixième réforme d'État déjà. Mais puisque ce sont bon, des systèmes, les systèmes concernés, c'est relativement simple, ce sont les allocations familiales, bon, ça marchera, et bon, on trouvera une solution à Bruxelles. Ce ne sera pas facile, mais on trouvera bien une solution à Bruxelles pour gérer ce problème-là. Mais on ne voit pas comment on pourrait gérer le problème, les allocations du chômage, par exemple, à Bruxelles, parce qu'il y a cette grande asymétrie à Bruxelles entre les cotisations et les risques. La base des cotisations est insuffisante pour couvrir les risques, la concentration de mauvais risques. La concentration de mauvais risques à Bruxelles. Donc cette asymétrie rend impossible une sécurité sociale au niveau bruxellois. Et donc ça, c'est prohibitif. Là, on ne trouve pas de solution. On ne peut pas trouver une solution pour le problème bruxellois. Voilà, ça c'est, je montre cette carte qui est le trou noir. Hein. Ça c'est le problème prohibitif pour la scission de la sécurité sociale pour la scission des allocations de chômage, d'invalidité, de pension, etc. etc. Donc, premier principe, ambigu, et qui rend une continuation de la logique belge impossible. Deuxième principe de départ, le passage des transferts interpersonnels vers des transferts interrégionaux. Et donc là, c'est un peu l'idée, implicite ou explicite, de transformer les transferts interpersonnels dans des transferts interrégionaux, ce serait, ça c'est l'argument du côté flamand, ce serait plus transparent, donc l'argument de la transparence, et c'est aussi neutre. On peut aussi bien organiser la solidarité de façon explicite entre les régions que de l'organiser de façon implicite par des transferts interpersonnels. Alors, je crois que les deux arguments sont faux. Premièrement, les transferts interpersonnels, en fait, c'est un système très, très transparent. Parce que ces transferts interpersonnels, ils découlent de ce que se trouve dans la loi de la sécurité sociale. La définition des risques, la définition de la base de contribution, la définition de la hauteur des contributions, etc. etc. Et donc, les transferts interrégionaux qui s'organisent par les transferts interpersonnels, c'est transparent. Naturellement, ce n'est pas transparent dans le sens que le système est très complexe, mais c'est aussi un système très flexible qui s'adapte aux changements de besoins, qui s'adapte aux changements de base de contribution, etc. etc. Beaucoup plus difficile d'organiser ça par les dotations, par des transferts interrégionaux. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder la loi de financement. Je ne sais pas, ce n'est pas très transparent en ce qui me concerne. Bah, peut-être c'est parce que je connais mieux la sécurité sociale, mais la loi de financement, il n'y a personne qui comprend. Il n'y a vraiment personne qui comprend. Il y en a, oui, ceux qui l'ont écrit, ils le comprennent. Mais dans 10 ans, la nouvelle génération ne comprendra plus ce qu'on a écrit là et pourquoi on l'a écrit, etc. Donc, les transferts interrégionaux ne sont pas transparents. Et ce n'est pas seulement en Belgique. C'est aussi dans les autres États fédérés, par exemple en Allemagne, c'est tout à fait incompréhensible. Donc, premier point de l'ambiguïté de ce principe de base. Et deuxièmement, le passage des transferts interpersonnels vers des transferts interrégionaux, ce n'est pas neutre. C'est pas neutre parce que c'est beaucoup plus facile d'organiser la solidarité par un système ou par des systèmes d'assurance sociale, d'organiser la solidarité entre les jeunes et les âgés, les personnes âgées, entre les ménages sans enfants avec les ménages avec enfants. C'est beaucoup plus facile d'organiser la solidarité sur cette base-là que de l'organiser dans une confrontation entre nous et vous. Et nous, moi, flamande, plus riche, et vous, wallon, moins riche. C'est beaucoup plus difficile d'organiser la solidarité sur cette base Et il est clair que organiser cette forme de solidarité, ça aura pour conséquence que la bipolarité va s'accroître. Hein, parce qu'on aura la discussion entre le nous et le vous, les donateurs, c'est quoi, les donateurs et ceux qui reçoivent. Et déjà, comment ?
Contributeurs.
Déjà, on a l'exemple. Dans les allocations familiales, la clé de répartition dans la loi de financement, c'est une clé démographique. Et cette clé ne tient pas compte d'autres facteurs socio-économiques. Et c'est tout à fait compréhensible parce que la loi de financement est déjà tellement compliquée, tout à fait impossible d'y mettre encore des critères, d'y ajouter encore de critères socio-économiques. Et ici, je vous donne, pour avoir une idée, ici on a les allocations familiales, il y a les allocations familiales majorées. Majorées pour les chômeurs de longue durée, pour les pensionnés, pour les invalides et pour les familles monoparentales. Allocation majorée. Si on regarde ici, on a c'est le budget total. En Flandre, environ 20% des allocations familiales ont trait aux des allocations familiales majorées. Région wallonne, 36%. Bruxelles, 44%. Et cela, naturellement, ça se comprend par les différences socio-économiques entre les différentes entités. Avec ces différences-ci, on ne tient pas compte dans la clé de répartition, dans la loi de financement. On tient seulement compte du nombre d'enfants de moins de 18 ans. Et donc, déjà ici, on voit que le passage de la répartition interpersonnelle vers la répartition régionale, elle engendre déjà moins de solidarité. Bon, ça c'était le deuxième point départ, ou le principe de départ. Deuxième principe de départ, ambigu. Troisième principe de départ, l'homogénéité des compétences. Et là aussi, c'est ambigu, parce que l'homogénéité n'existe pas. Et donc, naturellement, il faut essayer de faire des paquets de compétences si homogènes que possible. Mais partir du principe d'une homogénéisation total, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Bien, parce que l'homogénéité n'existe pas. J'ai mis deux exemples. Si on parle maintenant, on a les allocations familiales. Et l'idée était que il y a la politique familiale régionalisée, donc maintenant il fallait ajouter les allocations familiales. Mais les déductions fiscales, ça reste fédéral. Il y a l'accueil d'enfants et tout ça. Donc, même les allocations familiales, ça reste hétérogène, forcément hétérogène. L'exemple des pensions, c'est encore un meilleur exemple. Hein. Les pensions, c'est lié à la dette, c'est lié aux soins aux personnes âgées. Et donc, essayer on ne peut pas s'imaginer un paquet de compétences homogènes en ce qui concerne les pensions ou les personnes âgées. C'est simplement impossible, sauf si naturellement on aurait on scindrait tout le pays en deux. La responsabilisation. Troisième principe de départ, ambigu. Parce que c'est quoi la responsabilisation? Et là, en fait, il y a deux significations. Tout à fait différent. La première, c'est la plus ancienne, c'est l'idée d'autonomie. Donc l'idée, une région qui a son budget, c'est une façon de responsabiliser cette région, parce que naturellement, si ce sont les budgets propres, et donc on peut supposer que les gouvernements ils vont employer ces budgets de la façon plus efficace que possible. Ça c'est l'idée de l'autonomie, ça c'est l'idée la plus ancienne. Plus récent est l'idée de la responsabilisation vers le bien commun. Et donc l'idée, peut-être je reprends l'exemple de la réforme Bama. Là, je prends la Wallonie. La Wallonie elle décide les masters de 2 ans. Ça va nous coûter un peu, mais bon. Et les allocations familiales, ça, c'est pas notre problème. Ici, on pourrait dire, et ça c'est la signification de la responsabilisation vers le bien commun, on pourrait dire, dans ce cas-là, si une région veut prendre cette décision, il y a de bons arguments, mais cela devrait avoir comme conséquence que vous payez. Vous payez les allocations familiales additionnelles. Ça, c'est la responsabilisation vers le bien commun. Le bien commun, ici, la sécurité sociale. Donc, responsabilisation, il y a deux significations. Ici, on a pensé à introduire des mécanismes de responsabilisation vers le bien commun. Il y avait des idées. Frank van den Broeken avait, par exemple, fait une proposition en ce qui concerne le chômage. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait et donc on est resté à la responsabilisation en tant qu'autonomie sur le budget. On ne l'a pas fait, la responsabilisation vers le bien commun. Pourquoi ? Mais parce qu'on n'avait pas. Il y avait la proposition Frank van den Broeken qui était arrivée assez tard. En plus, c'est très difficile. C'est très difficile de responsabiliser des entités parce que il faut définir qu'est-ce qu'est la responsabilité. Je vais vous donner un exemple. Je prends l'Europe. Allemagne et Grèce. Je prie ces deux pays. Ici, on a le niveau de dépenses sociales. Et donc, l'Allemagne, dépenses sociales, 4% GDP, du PNB, PIB. 4% et la Grèce, 2%. D'un PIB plus. Ce qui veut dire que les Allemands, ils font un plus grand effort que les Grecs. Hein, en tant que pour la sécurité sociale, c'est seulement pour les personnes en âge actif. Ici, on a la diminution de la pauvreté grâce aux transferts sociaux. L'Allemagne réduit avec les 4% du PIB la pauvreté en Allemagne avec 50%. La Grèce, avec 2% du PIB, réduit la pauvreté de 20%. Ou autrement dit, les Allemands, ils font beaucoup plus d'efforts et en plus, ils sont plus efficaces. Oui, ils font plus d'efforts et ils sont plus efficaces. Bon. Partant de ça, on peut comprendre les Allemands qui disent, la solidarité avec les Grecs, c'est difficile, hein? La solidarité avec les Grecs, c'est difficile parce que bon, ils font moins d'efforts et ils ne sont pas efficaces. Hein? Et donc, si on commence à penser au niveau européen, hein, comment organiser une solidarité au niveau européen entre les Allemands et les Grecs, ou les Belges et les Grecs, parce que la Belgique, ça fait à peu près la même chose. Hein? Comment est-ce qu'on peut envisager, on pourrait envisager une solidarité? On peut seulement envisager une telle solidarité s'il y a des mécanismes de contrôle, s'il y a des mécanismes de contrôle, des sanctions. Si les Grecs n'utilisent pas les moyens qu'ils reçoivent de façon assez efficace, etc., etc. Donc la solidarité internationale ne peut se concevoir qu'avec des règles, du contrôle, des sanctions. Et c'est exactement ça qu'on affaiblit en Belgique. Parce que maintenant, on a dans la sécurité sociale, c'est plein de règles de contrôle et de sanctions. On l'organise dans notre système de sécurité sociale. En scindant partie de la sécurité sociale, on affaiblit ces instruments qui rendent la responsabilisation des entités qui organisent la responsabilité des entités fédérées. Alors que, je reviens au moins au premier point, alors que le fédéralisme bipolaire ne tolère aucune hiérarchie et que la scission n'est pas possible en raison de Bruxelles. Et donc voilà, on est de nouveau au point de départ. Ça, c'est le grand problème ici. Ça, c'est le problème belge. On ne peut pas organiser l'hiérarchie, on ne peut pas scinder, on ne peut pas scinder la sécurité sociale, on ne peut pas scinder le pays à cause de Bruxelles. Et on a besoin de systèmes de responsabilisation. Alors, que porte la sixième réforme de l'État? Une solidarité interpersonnelle. Vers une solidarité interrégionale avec le frein à la main. Donc, on le fait pour partie de la sécurité sociale, c'est-à-dire pour les allocations familiales, pour l'aide aux personnes âgées, pour, et ça c'est important, pour les politiques de marché de l'emploi et pour certaines parties des soins de santé. La responsabilisation, c'est de l'autonomie, et donc il n'y a pas de mécanisme de responsabilisation directe des entités. Solidarité, il y a la solidarité qui s'organise maintenant par la loi de financement, par les dotations, sans aucune responsabilisation. Et donc, demain, les entités fédérées, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Plus ou moins. Mais oui, je crois qu'ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent avec les dotations. Probablement, ils devront le standstill. Ils devront naturellement argumenter pourquoi ils, par exemple, ils veulent diminuer les allocations familiales. Mais ce n'est pas tellement difficile d'argumenter ça. On peut dire, bon, on avait besoin d'accueil d'enfants, c'est plus important. Nous, on trouve que c'est plus important et donc on diminue les allocations familiales. Il y a une certaine homogénéisation des pouvoirs. On pourrait dire les allocations familiales et les politiques familiales et politiques d'éducation. Donc là, on peut dire qu'il y a une certaine homogénéisation, mais aussi il y a un enchevêtrement des pouvoirs. Par exemple, certainement en ce qui concerne le chômage et les politiques de l'emploi. Donc le chômage, ça reste fédéral. Mais toutes les politiques de l'emploi, ça, ça passe aux entités fédérées. Et là, il y a vraiment, là, je crois que c'est un défi très, très, très grand d'organiser ça. Ce ne sera pas un fédéralisme à deux, comme on l'avait rêvé en Flandre, mais c'est un fédéralisme à trois ou à quatre, avec deux principes de fonctionnement tout à fait différents. Lieu de travail pour les branches de la sécurité sociale qui restent fédérales et le lieu de résidence pour les branches de la sécurité sociale qui vont passer aux régions. Et donc ça rend aussi le système encore plus complexe qu'il ne l'est déjà. Alors, pour conclure, une lecture pessimiste, mais je vais conclure avec une lecture optimiste. Mais je commence avec le pessimisme. Il y a certainement une perte de solidarité, relative, mais il y a une perte de solidarité à long terme, pas les premières 10 années, mais après 10 ans, il y aura une perte de solidarité. Il y aura certainement moins de responsabilité envers l'intérêt public et donc une pression croissante sur la sécurité sociale fédérale. Et donc il y aura la pression ne va pas diminuer. La pression pour scinder d'autres branches de la sécurité sociale ne va pas diminuer. Et la complexité de l'opération peut conduire à une nouvelle immobilité. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement complexe que pour 10 ans, on va s'occuper de scinder le système. Et on n'aura pas le temps de penser à des réformes, des allocations familiales, etc. Ça c'est la lecture pessimiste, un peu chargée. Mais je vais conclure avec une lecture optimiste. C'est aussi une opportunité de sortir de l'immobilisme. Et là, j'ai l'exemple de l'universalisation des allocations familiales. Parce que je suis très fière de ça. On a à l'ONATES, on a écrit un projet de loi portant la modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939. Relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Et donc, ce qu'on va faire, c'est incantelen. Qu'est-ce que ça pourrait être une belle parole, incantelen. Le système des indépendants va basculer dans le système des salariés, des travailleurs salariés. Les différences vont rester, etc. Mais bon, comme premier pas vers l'universalisation, ça me paraît très, très important. Et donc, on fait maintenant ce qu'on n'a pas pu faire les 3-4 décennies passées. Donc là, une lecture optimiste qui dit, bon, c'est une opportunité de sortir de l'immobilisme. C'est aussi une possibilité de construire un fédéralisme coopératif. Un fédéralisme coopératif à frais partagés. Donc, une partie du budget sera budget fédéral, mais une autre partie sera financée par les régions qui, à un certain moment, devront mettre leurs propres fonds dans le budget pour les allocations familiales, etc. Une gestion partagée, ce qui est certainement le cas pour l'ONEM. Dans le comité de gestion de l'ONEM, les communautés seront ajoutées. Et on va faire la même chose à l'ONAFTF. Les communautés seront aussi dans la période de transition. Les communautés seront aussi font part du comité de gestion pour organiser la scission du système. Mais donc là, on aura une gestion partagée et donc, en certain sens, la sécurité sociale qui maintenant, pour les communautés, c'est comme un Fremdkörper. C'est un système qui, pour les communautés, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas partie prenante. Et là, ici, il y a la possibilité, l'opportunité d'intégrer la sécurité sociale dans le tissu des communautés. Et naturellement, intérêts communs, hein, parce que les intérêts resteront communs. Et donc là, il y a cette possibilité, l'opportunité d'évoluer vers un fédéralisme coopératif, si on le veut. Si on le veut et pour le moment, par exemple, à l'ONEM, il n'y a personne qui voit comment ça va fonctionner. Mais s'il y a une bonne volonté, on pourrait y arriver. Et finalement, la fin de scission sera au moins pour un certain temps, sera arrêtée. Oui, mais c'est déjà le cas en Flandre. Il y a pas tous les partis politiques, mais les vieux grands partis politiques, ils ne sont pas partie prenante d'une nouvelle réforme d'État. Donc pour le moment, l'argument est aussi, ici on a beaucoup de travail à faire, ça va prendre au moins 10 ans pour faire cette réforme, et donc maintenant on laisse les choses comme elles sont. Voilà, ça c'est la lecture optimiste. Le projet de loi, je suis très fière. Et là, tu avais mentionné, ça c'est l'argument que on doit évoluer vers des compétences partagées. On doit lâcher l'idée d'exclusivité parce que ça ne mène à nulle part. Et donc, on doit commencer à raisonner de façon différente. Je ne sais pas si ça c'est la réponse, mais je sais que on doit raisonner différemment. Merci.